dass das ein für alle Mal klargestellt wird,
que cela soit clair une fois pour toutes ce soir, comme nous venons de l'entendre, qu'il s'agit ici en réalité des expériences avec Dieu que nous faisons par la foi en Jésus-Christ. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, lorsque nous avons fait une telle expérience avec Dieu, alors nous devons le savoir. Et il y a suffisamment d'indices à ce sujet dans les Saintes Écritures, particulièrement le passage qui nous rappelle de la création de l'homme, qui nous rappelle la création de l'homme naturel, puis deuxièmement, ce que le Seigneur Jésus a fait parmi ses disciples après sa résurrection. Ici, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, nous lisons à partir du verset 19. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, s'éteint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Verset 20. Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Verset 21. Puis il leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Verset 23. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ce qui nous intéresse ici, c'est principalement cette pensée que le Seigneur Jésus souffle sur ses disciples et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Nous savons qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme naturel, il était déjà parfait. Mais ce n'est que lorsque Dieu lui insuffla le souffle de vie qu'il devint une âme vivante, selon Genèse 2, verset 7. Cela concernait l'homme naturel, afin qu'il soit appelé à l'existence naturelle. Maintenant, après que Jésus ait payé le prix à Golgotha, après que son sang écoulé pour la réconciliation de plusieurs, il se révèle à ses disciples après sa résurrection, souffle sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Cela nous rappelle, en effet, et nous donne la possibilité de faire la comparaison entre le premier homme que Dieu a créé, auquel il a insufflé le souffle et qui est devenu une âme vivante. Maintenant, à ces hommes qui existaient sur la terre et qui étaient des âmes vivantes, il a dit, en leur soufflant dessus, « Recevez le Saint-Esprit. » Quelque chose de nouveau devait prendre place ici, quelque chose de durable, quelque chose d'éternel. Et nous voyons ensuite l'expérience de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu et que l'Église a été fondée et que les frères sont partis pour servir le Seigneur. Bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas présenter un programme à Dieu. Il est impossible que nous puissions dire à Dieu comment il doit agir dans chaque cas de manière particulière. Mais l'important, dans une expérience, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir la certitude de ce que l'on a expérimenté, de ce que l'on a expérimenté avec Dieu. C'est important, car chaque expérience que nous faisons avec Dieu doit nous donner une telle certitude que nous en ayons, de sorte que nous en ayons une clarté totale. Nous savons que lorsque Pierre a prêché dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient son discours. Acte 10, verset 44. On ne sait pas combien de temps il a prêché. On ne sait pas combien de temps les gens ont eu pour assimiler ce qui était prêché. Mais nous lisons que Dieu leur a donné le Saint-Esprit de la même manière qu'aux premiers disciples à la Pentecôte. Il a donc dû se passer quelque chose déjà pendant la prédication, pour, de sorte que les gens ont pu croire en Jésus-Christ, pour que la puissance purificatrice du sang et de la parole puisse agir en eux, et pour que la confirmation soit immédiate sous la proclamation de la même prédication. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit comme au commencement à la Pentecôte. Nous vivons tous dans une époque où nous savons beaucoup, beaucoup de choses, où nous accordons de l'importance à la connaissance. Mais je pense que le temps est vraiment venu où nous devrions accorder de l'importance à une rencontre avec Dieu. Comme nous l'avons entendu, la nouvelle naissance doit donner, la nouvelle naissance nous donne la vie éternelle. Celui qui est né de Dieu a la vie de Dieu en lui. Mais ensuite, cette intégration, cette union au sein du corps de Christ se fait par le baptême du Saint-Esprit. Si je dois utiliser les paroles de Frère Branham ou les développer, cela peut signifier que, ou selon les termes de Pierre, cela peut signifier que nous devenons des pierres vivantes dès l'instant où nous recevons la vie de Dieu. Mais une pierre vivante qui n'a pas trouvé sa place et qui ne comble pas un vide quelque part, mais qui vient peut-être juste d'être rendue vivante, cette pierre ne remplit pas encore, en fait, le but pour lequel elle a été destinée. Chaque enfant de Dieu ne remplira le but pour lequel il a été engendré, pour une espérance vivante, uniquement lorsque nous serons baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, comme nous l'avons entendu, nous avons accès au don du Saint-Esprit. Et Dieu a la possibilité, selon le besoin, de révéler ses dons dans l'Église. Je laisse le soin à chacun de décider et aussi de rendre compte à Dieu de ses expériences ou de l'expérience que nous ou que la personne concernée a faite avec Dieu. Mais je crois qu'il n'est pas acceptable de toujours repousser des choses aussi importantes et de rester dans l'incertitude. Et peut-être être insatisfait avec nous-mêmes ou avec notre environnement ou avec tous les autres, mais qu'en réalité, si quelque chose est là ou si quelque chose n'est pas encore là, Dieu a la plénitude pour que nous puissions le lui demander et il nous le donnera sans aucun doute. Il ne sert à rien de dire aux gens qu'ils seront présents lors de l'enlèvement s'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Je n'aurais pas la liberté intérieure de le faire. Si quelqu'un me demandait si une personne est sauvée lorsqu'elle est née de nouveau, alors je peux répondre sans hésiter oui, car celui qui est né de Dieu ne peut être perdu ou ne peut pas se perdre, car Dieu ne peut pas se régner lui-même et la vie qu'il a donnée aux hommes, il ne peut pas la régner. Mais lorsqu'il s'agit de l'enlèvement, d'être présent au festin des noces de l'agneau, d'être béni et d'être utilisé ici-bas, d'être un instrument entre les mains de Dieu. Nous l'avons entendu littéralement. Nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes croyants, chrétiens, dès le moment où nous avons expérimenté la nouvelle naissance et avons reçu la vie nouvelle, la vie éternelle. Mais par le baptême de l'Esprit, l'accès aux dons et plus généralement, le fait d'être utilisé par Dieu dans son service nous sont accordés par grâce. Et ce n'est pas un reproche que je fais. Je me soumets moi-même à chaque parole de Dieu. Mais je ne voudrais pas qu'un jour Dieu me reproche de ne pas avoir enseigné en ce lieu ce qu'enseigne la parole de Dieu. Bien sûr, je dois le dire ouvertement. Si dans le livre « Les sept âges de l'Église », cette présentation est différente de ce que nous venons d'entendre ou d'exposer ici, alors je suis vraiment désolé. Mais nous nous en tenons à ce que dit la parole de Dieu. Je ne peux pas faire autrement. Que Dieu m'aide. Ça, c'est la parole de Dieu. Et tout dépend d'elle. Nous avons donc, en ce temps, le devoir de revenir à la parole de Dieu en toutes choses. Et si nous croyons que la restauration n'est pas seulement promise, mais qu'elle doit avoir lieu, mais j'aurais peut-être dû préciser que le livre « Les sept âges de l'Église » n'est pas ou bien n'a pas été écrit exclusivement par Frère Branham, mais par l'IV. Je dois le dire clairement ici, afin que personne ne pense que Frère Branham s'est contredit. J'ai écouté suffisamment d'enregistrements pour savoir ce que Frère Branham a dit. Et cela a effectivement causé la perte de beaucoup de gens. Ils pensaient avoir trouvé une sécurité ou bien un oreiller pour dormir et pensait qu'il n'avait plus besoin d'expérimenter Dieu de cette manière et pensait pouvoir s'en sortir ainsi. Non. Nous voyons ici deux choses. Nous voyons que le Seigneur Jésus a dit très clairement à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, selon Jean 3, verset 3. Le contexte ne parle pas de l'enlèvement, ce contexte de Jean 3. Mais lorsque nous lisons dans Matthieu 25, il est dit que les vierges sages avaient non seulement les lampes, mais aussi de l'huile dans leurs vases. Et l'appel a retenti, et toutes les vierges se levèrent, mais celles qui étaient prêtes, celles qui n'étaient pas à court d'huile, entrèrent. Et les portes furent fermées. Matthieu 25, 10. Dans ce contexte, la parole parle de l'époux et de ceux qui entrèrent avec lui dans la gloire. Nous devons donc clairement distinguer qu'il y a une première résurrection et qu'il y a une seconde résurrection. Qu'il y a des personnes qui seront présentes lors de la première résurrection et qu'il y a des personnes qui seront présentes lors de la seconde résurrection. Ceux qui ont participé à la première résurrection étaient nés de nouveau et étaient prêts. Et ceux qui participeront à la seconde résurrection doivent également être nés de nouveau. Sinon, ils ne pourraient jamais entrer dans la vie éternelle. Mais Comme je l'ai déjà dit, si nous croyons que Dieu a révélé sa parole dans ce temps, alors nous ne devons pas nous consoler en attendant la seconde résurrection, mais nous devons simplement crier dans notre détresse et dire, « Mon Dieu, si nous, tu nous as révélé ta parole, la parole pour ton épouse en ce temps, et si tu nous as accordé la grâce de la recevoir et d'y croire, alors accorde-nous maintenant la grâce de pouvoir expérimenter tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est requis pour être du nombre lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour prendre les siens à la maison. » Vous verrez, lorsque les deux prochaines prédications de Frère Branham seront publiées, vous verrez qu'il s'agit en fait d'être plongé dans cette détresse intérieure, que toute notre arrogance et que tout puisse disparaître et que nous commencions à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et que nous luttions pour entrer et que nous ne disions pas simplement, « Bon, nous avons maintenant tout, n'est-ce pas? Nous sommes en route. » Mais tant que nous sommes sur la terre, et je voudrais prendre les paroles de Paul qui dit qu'il les a enfantés dans la douleur et qu'il voulait présenter à Christ une vierge pure. Il s'est donné du mal. Il a pris tout sur lui et n'a cessé jour et nuit d'enseigner, d'expliquer les Écritures afin que son travail et son ministère ne soient pas vains. Ce serait pour moi, et je crois que ce serait le cas pour nous tous qui avons entendu la parole de Dieu en ce lieu pendant toutes ces années, ce serait pour nous la plus terrible déception si à la fin de notre voyage, nous devrions constater que nous avons omis quelque chose. Et même si quelqu'un ici aujourd'hui dit, peut-être, jusqu'à présent, il ne me manque de rien, mais l'heure viendra où il manquera quelque chose. L'heure vient, car la Bible le dit. À savoir que lorsque l'appel a retenti et que les vierges se réveillèrent toutes de leur sommeil, qu'elles nettoyèrent toutes leurs lampes et se mirent en route pour aller à la rencontre de l'époux, alors commença la détresse. Matthieu 25, verset 6. Avant que ce moment décisif n'arrive, une détresse intérieure doit nous saisir. Que nous puissions nous prosterner, tomber devant la face de Dieu, et que nous puissions prier véritablement. Je ne sais pas si nous savons vraiment ce que c'est que de prier jusqu'à la certitude totale, jusqu'à ce qu'une percée vienne, jusqu'à ce qu'une expérience avec Dieu ait lieu. Autrefois, nous passions des heures et des heures en prière, jusqu'à ce que nous fassions l'expérience de Dieu. Et nous l'avons entendu. Si quelqu'un croit bibliquement et accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel et fait l'expérience du pardon de ses péchés, alors il naît de nouveau pour une espérance vivante. Cela ne fait aucun doute. Mais qu'en est-il de ce que nous considérons ici ce soir, à savoir toute la plénitude du Saint-Esprit, des bénédictions de Dieu, de la puissance de Dieu qui doit se manifester au milieu du peuple de Dieu. Et n'est-ce pas précisément cela qui nous cause tant de difficultés? Et nous nous posons sans cesse la question, pourquoi Dieu n'obtient pas ce qui lui revient de droit. Je vous le dis, si nous étions une église à 100% biblique, Dieu serait obligé de se révéler, de se manifester. Dieu ne peut pas se taire. Dieu est le Dieu de son peuple. Et je crois que c'est Frère Branham qui a dit une fois que sans lui, nous ne sommes rien. Et lui aussi a besoin de nous comme son corps pour pouvoir se révéler ici sur terre. Ce dont nous avons donc besoin, c'est un tel brisement comme nous n'en avons encore expérimenté jusqu'ici. Une telle détresse intérieure doit nous envahir, oui, afin que, comme Jacob, nous ne lâchions tout simplement pas prise, même si cela dure jusqu'au lendemain, et que nous puissions dire, Seigneur, je ne te laisserai pas, à moins que tu ne me bénisses. Selon Genèse 32, verset 26. Cela aura valu la peine, bien-aimé. Cela aura valu la peine. Et la bénédiction de Dieu se manifestera. On le sentira. L'heure doit venir où un amour véritable, plus rien d'artificiel, plus rien de forcé, mais de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, nous trouvons la connexion l'un à l'autre. Oui, nous ne pouvons plus être l'un sans l'autre. Nous sommes liés comme le corps est lié. Comme le corps est lié, chaque membre ressent ce que ressent l'autre. Grâce à cette connexion, l'organisme est tout simplement là. Et il en va de même pour le corps de Jésus-Christ. Et je crois que c'est Frère Pfister qui m'a dit à Bruxelles ou en Belgique, il m'a dit que Frère Franck, la maison de Dieu est composée de plusieurs pierres et le ciment entre ces pierres, c'est l'amour, dit-il. Oui, c'est l'amour. Oui, c'est ça. La maison de Dieu est composée de plusieurs pierres, mais le ciment entre ces pierres, c'est l'amour. Oui, il n'y a plus rien. Une pierre ne peut plus se frotter contre l'autre, car il y a le ciment entre elles. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dites-moi franchement ce soir, avez-vous des difficultés à vous aimer les uns les autres comme il se doit? Avons-nous des problèmes à cela? Au fond, comme nous l'avons entendu dans l'introduction, si nous marchons dans la lumière, 1 Jean chapitre 1, verset 7, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Il n'y a plus rien qui nous sépare de notre frère. Il n'y a plus rien qui puisse nous inciter à ne pas aimer quelqu'un. Mais la question est en fait de savoir si nous devons faire des efforts pour nous aimer les uns les autres, pour nous rencontrer, pour nous tendre la main, ou si c'est simplement une chose que nous désirons. Nous devons nous poser la question. Je dois me poser la question. Je vous prie de me comprendre. Je serais un hypocrite si je voulais vous faire des reproches ici ce soir. Je me demande moi-même, est-ce que je dois me forcer? Dois-je me faire violence pour serrer la main à un frère ou à une sœur? Ou alors la chose est simplement là, cette communion vivante, cet amour profond de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors le moteur est là en nous. Alors ce n'est plus nous qui devons essayer et peut-être réfléchir en chemin à la manière dont nous allons rencontrer le frère ou la sœur. Qui veut réfléchir lorsqu'il est en chemin? Alors, vaut mieux prier et ne pas réfléchir, mais laisser Dieu nous donner la connexion avec lui, afin que nous puissions nous présenter devant sa face, ou bien la face du Seigneur dans la maison de Dieu. Je vous le répète, si tout va bien parmi nous, alors Dieu doit ébranler ce lieu et nos cœurs. Cela ne manquera pas d'arriver, car il est le Dieu de sa parole et de son peuple. Il doit tenir ses promesses. Ainsi, pour mettre fin à toute incertitude, à tout doute. Demandons à Dieu de nous accorder une détresse intérieure, un brisement, ce cri de désespoir. Et de cette manière, mais cela n'a pas besoin d'être ici. Chacun expérimentera cela avec son Dieu quelque part et à un moment donné. Quand cela lui arrivera et qu'il ne s'arrêtera pas avant que le soleil ne se lève, comme pour Jacob. Et quand le Seigneur frappera quelque part sur lui, cela n'aura pas d'importance. L'important sera que le soleil se lève et que nous ayons fait une expérience avec Dieu. Je crois que ce n'est pas de savoir si nous pouvons tout expliquer individuellement. Cela n'a pas été fait dans la Bible non plus. La Bible n'est pas là pour cela. Et je l'ai déjà mentionné, le Seigneur Jésus n'a pas donné pour mission d'expliquer la Bible. Il a seulement donné la mission suivante, prêcher l'Évangile. Nous ne pouvons pas expliquer nous-mêmes les expériences. Les expériences doivent être faites. Et chacun d'entre nous, nous le voyons aussi dans les Saintes Écritures. Nous voyons aussi dans les Saintes Écritures à ceux qui ont fait ces expériences à des moments et en des lieux différents. Mais l'effet a toujours été le même. Et il doit en être de même pour nous. Si nous sommes une assemblée biblique avec des expériences bibliques, avec une véritable nouvelle naissance et un baptême du Saint-Esprit, un baptême dans le corps de Jésus-Christ, alors nous sommes très certainement un seul cœur et une seule âme. Au fond, les disciples ou les 120 avant la Pentecôte étaient déjà un seul cœur, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Est-ce vrai? On doit faire très attention à toujours avoir à l'esprit le passage biblique correct et le contexte approprié. Il se pourrait aussi que ce soit ceux qui, plus tard, non, mais ces frères et sœurs là-bas dans Actes des Apôtres, chapitre 1 au verset 14, Actes 1, verset 14, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, notamment Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Vous pouvez me le croire. Il s'est passé quelque chose en ses disciples, en tous ceux qui étaient rassemblés à la Pentecôte ou avant la Pentecôte. Auparavant, ils voulaient savoir qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Mais ici, personne ne pensait plus à lui-même, à soi-même. Personne. Mais ils étaient un seul cœur, unis d'une seule voix dans la prière. Et Dieu s'est révélé au milieu d'eux. C'est ce dont nous avons besoin, en plus de toute notre connaissance, de toute notre compréhension. Nous avons besoin de cette expérience avec le Dieu Tout-Puissant. Et sans cette expérience, il nous manquera quelque chose le jour où le Seigneur Jésus reviendra pour prendre les siens à la maison. J'espère ne pas avoir privé quiconque de ce qu'il a expérimenté avec Dieu. Nous ne voulons pas répandre le doute, c'est ce que l'ennemi fait, mais nous voulons la certitude devant la face du Dieu Tout-Puissant. Car, soyons honnêtes ou ouverts, l'incertitude entraîne l'incrédulité, mais la certitude révélera la foi. La foi donne la force de la victoire. Et Dieu tiendra sa parole. Et nous fera l'expérimenter par grâce. Expérimenter le fait de pouvoir nous approcher de lui et que, d'une part, comme nous l'avons lu, il nous insuffle un souffle et que nous recevions la nouvelle vie de Dieu. Nous savons que nous l'avons expérimenté, mais tout comme les disciples savaient où le Seigneur Jésus leur avait soufflé dessus et dit « Recevez le Saint-Esprit et à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » C'était déjà une autorité considérable qu'il leur donnait là, mais ils ne pouvaient partir prêcher qu'après que la puissance du Saint-Esprit soit descendue sur eux. Ils partirent et proclamèrent la parole du Seigneur. Croyez-moi, frères et sœurs, le temps presse et le jour approche où le Seigneur Jésus viendra prendre les siens. Ne nous reposons pas avant d'avoir trouvé le repos en Dieu. Si nous devons encore nous convaincre nous-mêmes ou nous rassurer d'une manière ou d'une autre au sujet d'une expérience biblique, personne ne doit plus s'y risquer. Nous voulons la certitude de Dieu et nous l'avons après avoir fait l'expérience avec Dieu. Personne n'avait plus besoin de demander à Jacob et à tous ceux qui avaient fait l'expérience avec Dieu, leur demander « Crois-tu que tu l'as expérimenté ou qu'en penses-tu ?» Toutes ces questions avaient disparu une fois pour toutes après l'expérience avec Dieu. Et il en sera de même ici, chez nous. Il en sera de même pour moi, il en sera de même pour nous tous. Après une véritable expérience avec le Dieu Tout-Puissant, tout doute cessera et toute question prendra fin. Nous saurons et nous nous rappellerons d'un jour et d'une heure où nous avons fait la rencontre de Dieu et où nous avons pu expérimenter sa grâce. Une heure où la puissance du Saint-Esprit est descendue sur nous. Nous l'avons entendu assez souvent. Il ne s'agit pas de faire quelque chose soi-même et de montrer aux gens que l'on a reçu le Saint-Esprit, mais il s'agit de l'expérience elle-même. Et ce que Dieu révèle ensuite en termes de dons, ça c'est son affaire. Il le fera, mais que Dieu nous accorde à tous sa grâce de laisser chaque parole là où Dieu l'a placée. Et que nous puissions faire la distinction lorsque le Seigneur Jésus dit à ses disciples, même avant la résurrection, et même avant la crucifixion, et même avant l'effusion du Saint-Esprit, quand il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, verset 3. Et cela ne l'a pas empêché, après la résurrection, de souffler sur ses disciples et de leur dire « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20, verset 19. Cela ne l'a pas empêché à la Pentecôte de répandre la plénitude du Saint-Esprit. Il est vraiment nécessaire, frères et sœurs, croyez-le-moi, que nous puissions parler aussi de manière biblique dans nos conversations. Et cela ne peut être le cas que si nous ne disons pas ce que nous pensons ou ce que nous croyons, mais que nous disions ce que la parole de Dieu a à nous dire sur le sujet en question. Car la Bible dit, si quelqu'un parle, que ses paroles soient comme des oracles ou des paroles de Dieu. 1 Pierre 4, verset 11. Et Dieu nous accordera cela par grâce. Et nous savons tous très bien que nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Dieu a fait de grandes choses. Et je ne connais personne sur cette terre, ni aucun endroit où Dieu a œuvré de manière aussi merveilleuse après le départ de Frère Branham comme il l'a fait ici, au milieu de nous. Peut-être il l'a fait quelque part, je ne le sais pas. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la parole révélée. Et nous reconnaissons tout dans toute son ampleur. Mais nous devons également reconnaître que nous ne sommes pas encore là où l'Église était au commencement, équipée de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est notre droit de revendiquer les promesses de Dieu. Et alors, tous nos efforts personnels cesseront. Et ce sera Dieu qui se révélera, qui agira, qui parlera et se manifestera parmi son peuple. Et nous serons si liés les uns aux autres qu'il serait en fait impossible de séparer l'un de l'autre. Et si nous ressentons ou si nous ne ressentons pas encore ces liens les uns les autres, je tiens à le dire très clairement. À partir de ce soir, ne rejetons plus la responsabilité sur les autres, mais interrogeons-nous, nous-mêmes. Car l'autre, le frère ou la sœur, se poseront aussi la question devant Dieu. Et nous nous poserons tous la question devant Dieu, chacun pour soi. Mais une chose est sûre, lorsque le Saint-Esprit est répandu, alors il y a beaucoup de ciment entre les pierres. Il y a beaucoup de ciment entre les pierres. Et même si l'ennemi avait l'intention de faire le mal parmi nous, il ne pourrait y parvenir, car dans la maison de Dieu, comme nous le lisons dans Apocalypse, le Seigneur marche au milieu des chaînes des sept chandeliers. Et lorsque le Seigneur marche, alors il n'y a plus de place pour l'autre. Là où le Seigneur vient à ce qui lui revient de droit, Satan perd ses droits. Et nous nous tenons dans la foi sur le terrain de la victoire de Golgotha. Et que personne n'ait l'impression que nous sommes découragés ou que nous faisons nos premiers pas dans la vie de foi. Mais nous préférons donner l'impression que nous n'avons pas encore assez plutôt que de donner l'impression que nous avons tout en abondance et que cela nous manque le jour où le Seigneur Jésus reviendra. Que Dieu nous accorde cette grâce, la grâce de laisser désormais toutes les questions doctrinales plus ou moins au niveau de l'Assemblée. Du moins, dès que certaines divergences se manifestent. Dès que des divergences de connaissances et d'enseignements se manifestent dans une conversation, c'est immédiatement le signal qu'il faut interrompre la conversation et le sujet. La Bible dit, littéralement, aucun frère, personne n'enseignera l'autre. Aucun frère n'enseignera l'autre. Mais ils seront tous enseignés de Dieu. Et lorsque Dieu enseigne, la chose est uniforme. Il n'y a pas la moindre différence dans l'enseignement lorsque Dieu nous enseigne. Et nous savons comment Dieu enseigne. Il révèle sa parole à ses serviteurs, les prophètes. Il demande ensuite à ses serviteurs ou à qui que ce soit d'autre de transmettre au peuple de Dieu la parole fraîchement révélée par Dieu. Et croyez-moi, un serviteur de Dieu ne doit pas être égoïste ou penser qu'il doit défendre son point de vue. Un prédicateur le ferait peut-être, mais pas un serviteur de Dieu. Si l'un d'entre nous vient ici devant pour exposer son point de vue ou même le défendre, alors qu'ils restent assis et attendent que Dieu l'appelle. Celui qui vient ici devant, il expose le point de vue de Dieu selon la parole de Dieu en toute conscience et en toute bonne âme. Et Dieu lui accordera alors sa pleine bénédiction. Bien-aimé, faites-moi ce plaisir. Ne quittez pas cet endroit sans espoir, mais remercions Dieu de tout cœur pour tout ce qu'il a déjà fait. Et je pense à la parole, c'est je crois Pierre qui l'a dit, la parole qui dit que nous sommes nés de nouveau par la semence incorruptible de sa parole. Et nous pouvons citer de nombreux passages bibliques à ce sujet. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes ses bénédictions, pour chaque expérience, pour chaque enseignement, pour chaque connaissance, pour tout ce que Dieu a fait au milieu de nous. Mais maintenant, il s'agit de franchir le dernier obstacle. Et dans la prédication que nous avons traduite, Frère Branham dit que cette caractéristique n'était pas exigée dans les âges de l'Église passée, mais qu'elle est exigée maintenant à la fin. Et cela doit simplement être manifeste. Et je crois que c'est Frère Weber qui l'a exprimé ici. Comment pouvons-nous aimer le Seigneur si nous ne nous aimons pas les uns les autres? Et nous pouvons même dire, Seigneur, je t'aime. Mais en vérité, cela se manifeste entre nous. Cela se manifeste entre nous. Notre relation à Dieu est mesurée les uns par rapport aux autres, que nous voulions l'admettre ou non. Alors que Dieu nous donne une telle nature, un tel amour, que nous ne puissions plus dire du mal d'un frère ou d'une sœur. Imaginez-vous que nous voulions passer l'éternité ensemble et rendre témoignage que nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Pourquoi alors dire quelque chose de négatif? Qui peut accuser les élus de Dieu? Ils ont été déclarés justes par le sang de l'agneau et personne ne peut les accuser. S'il y a quelque chose que nous pensons devoir critiquer ou reprocher les uns aux autres, pourquoi en faire une grande histoire? Si ce n'est pas juste aux yeux de Dieu, selon notre opinion, alors apportons-le lui, car il est le seul à pouvoir y remédier. Toutes nos paroles n'y changeront rien, au contraire, elles ne feront qu'empirer les choses. Mais dès l'instant où nous brûlons d'amour les uns pour les autres et où nous disons simplement « je ne veux pas passer l'éternité sans mon frère, sans ma sœur. Seigneur, je viens devant ta sainte face. Ton sang a coulé. Aie pitié et interviens. » Vous verrez alors ce qui se passera au milieu de nous. Si un tel amour nous pousse à prier les uns pour les autres, alors deviendra manifeste que nous sommes de véritables disciples, car nous avons un véritable amour les uns pour les autres. Mais si nous ne pouvons que constater que l'un ou l'autre ne se comporte ou pas, ne fait pas correctement selon notre opinion, cela n'a aucune valeur devant Dieu. L'amour véritable nous amènera simplement, comme le dit la Bible dans Romains 8, que l'Esprit vienne à notre secours et que nous nous présentions devant la face de Dieu avec des soupirs inexprimables et que nous intercédions pour les saints. Romains 8, verset 27, c'est ce que dit la parole de Dieu. Avons-nous soupiré les uns pour les autres ou avons-nous prié par le Saint-Esprit avec des soupirs inexprimables et que l'Esprit, le Saint-Esprit agisse pour que nous intercédions les uns pour les autres? C'est cela qui importe. Bien-aimés, je dois me soumettre à chaque parole, comme vous tous, et je prie Dieu qu'il m'accorde grâce, qu'il me fasse grâce
bénisse ton nom. Bitte euch, dass wir alle vom lieben Tage
qu'il nous fasse grâce à tous, afin qu'aucun d'entre nous ne manque le jour où il viendra. Et je vous demande qu'à partir de ce jour, nous intercédions les uns pour les autres et prions les uns pour les autres afin que nous puissions simplement pleurer les uns pour les autres. Surtout, si quelqu'un pense que son frère ou sa sœur ne se comporte pas comme il devrait, priez et laissez le Seigneur vous donner la force d'intercéder avec un cœur brisé. Toute l'atmosphère de l'Assemblée sera alors renouvelée. Dieu vous bénira. Ce sera quelque chose de merveilleux lorsque les frères, là où les frères et les sœurs sont unis ensemble. C'est là que Dieu a décrété sa bénédiction. Il l'a promis. Et c'est la vie éternelle. Louange et remerciement. C'est ce que nous voulons tous par la grâce de notre Dieu. Je crois qu'il n'y a pas un seul ici qui pourrait supporter qu'il manque quelqu'un le jour où Jésus viendra. Dites-moi, qui ne voudriez-vous pas voir dans l'éternité ou auprès du Seigneur? Nous voulons être là nous-mêmes et nous voulons que tous ceux avec qui nous avons entendu la parole de Dieu, avec qui nous avons cru, nous voulons atteindre le but ensemble. Nous trouvons comme dans Josué, là où deux tribus et demie avaient déjà pris possession du pays, et Dieu dit, vous marcherez en tête jusqu'à ce que tous vos frères aient pris possession du pays, et ensuite vous pourrez entrer dans le pays. Alors que personne ne se complaise en lui, mais que celui qui possède déjà le pays et qui en jouit des fruits se mette en tête de ses frères et combatte dans le combat de la foi jusqu'à ce qu'ils trouvent tous le repos en Dieu, jusqu'à ce qu'ils prennent tous possession du pays et puissent jouir et manifester les fruits merveilleux. Que son nom merveilleux et saint soit loué. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Levons-nous pour la prière finale. Père céleste, ta grâce est grande et ta bonté envers les enfants des hommes n'a pas de fin. Et tu éloignes de nous nos transgressions comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Mais Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'à partir de ce soir, tu vas faire quelque chose de grand en nous et pour nous tous. Et tu le manifesteras aussi entre nous. Ô Dieu, nous te louons, nous t'adorons, nous remettons tout entre tes mains percées. Révèle-toi à nous, insuffle-nous ta nouvelle vie de résurrection. Alléluia. Et que nous puissions aussi nous pardonner les uns les autres au Seigneur. Et que nous soyons alors unis d'un même cœur pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous te remercions, fidèle Seigneur, et nous te prions d'être avec nous tous. Au nom de Jésus, Amen. Amen.